Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et les grandes voix qui vous entourent ce soir. Nathalie, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Catherine Ney.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie. Dans ce studio pendant une demi-heure ensemble. Pour démarrer, si vous le voulez bien, parce qu'on est à J-4 par ces municipales, ce second tour des municipales. Gérard Carrérou, les grandes villes françaises, ça y est, sont prêtes peut-être à se mettre au vert. Verdict dimanche, mais en tout cas, on voit le vert se pointer de plus en plus.
Oui, ça sera une sorte de paradoxe, je crois, dimanche soir. Pourquoi paradoxe ? Bien parce que la gauche traditionnelle, la vieille gauche, étriée depuis l'élection de M. Macron en 2017, va avoir, au sortir des élections, un bon, voire un très bon bilan. Alors, peut-être va-t-elle triompher, mais en fait, quand on va y regarder de près, on s'apercevra que ce n'est pas la vieille gauche, en fait. C'est la vieille gauche tirée par les Verts, le mouvement écologiste, les Verts, qui deviendront la force dominante. Et toutes choses égales, ça me fait penser un peu à un moment où, à gauche, on a vu le basculement, où les communistes, qui ont été longtemps la première force de gauche, se sont passés au deuxième rang. C'est Mitterrand qui a provoqué le mouvement et les socialistes ont pris la place.
Mais c'est
et
très bien, ça me permet de teaser, pardonnez-moi, voilà, Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, qui sera mon invité à 19h20. On se demande.
Je ne vais pas entrer dans le détail parce que Catherine et Charles ont travaillé plus dur que moi sur le sujet. Alors, je vais dire simplement, oui, pour finir ma phrase là.
Bien sûr.
C'est ce que je décris là, c'est vrai évidemment à Paris, tout le monde en a parlé ici lundi soir. Paris, donc, restera à gauche, mais il y aura des possibilités qu'un certain 5 ou 6 très grandes villes de France
on va peut-être regarder
basculent. Vous allez regarder avec mes camarades.
Alors, Charles Villeneuve.
Oui, alors, quand tu dis que, évidemment, c'est surtout les écolos qui tirent les socialistes, mais il faut rappeler quand même qu'il y a des maires socialistes qui sont très solidement ancrés.
Oui.
Ce sera le cas d'ailleurs d'Hidalgo, de Johanna Roland à Nantes, Nathalie Appéré à Rennes, François Rebsamen à Dijon, Stéphane Le Foll au Mans et l'écolo Éric Piolet à Grenoble. Bon. Alors, ce qu'il y a de vrai, ce que tu viens de dire, c'est que le carré, si tu veux, des grandes villes qui peuvent basculer, soit on se retrouvera dimanche soir avec un maire socialiste ou un maire écologiste, c'est Paris, c'est Marseille, où Martine Vassal des Républicains est en danger largement.
Ouais,
on le sait
pourquoi.
Face à
Michel Rubirola, hein, voilà, qui est vraiment la surprise de cette élection.
Lyon, c'est un écolo qui est arrivé en tête. Et c'est le maire républicain Macron compatible de Toulouse qui est en danger.
Exactement.
Aussi, justement,
Jean-Luc
par la poussée écologiste. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vrai, comme tu le disais, Gérard, que les socialistes, notamment, se sont retrouvés dans les limbes de l'Olympe à cause de Macron. Et qu'en plus, la tribune est tenue par Jean-Luc Mélenchon.
Exactement.
Est-ce que, partant de ces élections municipales, la gauche gouvernementale peut rêver
à avoir
élection présidentielle plus favorable qu'elle n'a été.
Bah oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut tirer cette conclusion ? Voilà. Je ne crois pas.
Catherine Ney, principale, peut-être demain principale force de gauche, Verts.
Mais oui, c'est ça la grande nouveauté, parce que les élections municipales de 1995, 2001, 2008, il y avait des têtes de liste vertes, mais c'était des listes verts homogènes. Ils ne ralliaient aucun candidat de gauche, aucun petit candidat. Est-ce que là, aujourd'hui, alors c'est vrai que beaucoup de maires socialistes ont été confortés par cette élection et seront réélus, mais ce qui est nouveau, c'est le nombre de villes dans lesquelles le candidat écologiste arrivé en tête draine derrière lui la gauche et fait le rassemblement de la gauche. Voilà, c'est quelque chose d'inédit.
On va peut-être zoomer dans un petit instant sur quand même 2-3 cas assez inédits. Par exemple à Lille où Martine Aubry.
C'est l'exception.
Je voulais vous entendre là-dessus. J'étais sûre qu'avec Gérard on s'entendrait. On se retrouve dans un instant, les grandes voix. Alors c'est promis, on dira les trois. À tout de suite, les grandes voix.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix autour de vous, Nathalie Lévy, ce soir Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Oui, et on zoome sur ce second tour des municipales. Dimanche, ce sera à vivre évidemment sur Europe 1 avec notamment Wendy Bouchard et Sébastien Krebs en édition spéciale. On se parlait des cas quand même dans cette élection, des surprises a priori, des bouleversements. On filait dans le Nord, regardez ce qui se passe du côté de Lille chez Martine Aubry, terre historique de la gauche et du PS. Et là, peut-être le cataclysme dimanche.
Parce que Martine n'a Gérard, pas voulu faire l'alliance.
Ouais.
Elle
n'a
pas voulu
Verts.
Faire. Alors, je connais pas le détail de la négo, mais je ne sais pas si c'est ça, elle qui a voulu vraiment casser avec les Verts ou les Verts qui ont voulu
elle
casser.
Et pourtant, ce sont ses anciens amis.
Elle a dû se dire je peux gagner sans eux. Alors, oui. A-t-elle été audacieuse là, dans cette analyse ou pas ? J'en sais rien.
Elle est devant, hein. Elle a oui, 3 points de plus.
Et en plus, ça s'est fait entre amis, cette triangulaire.
Non, mais attention, il y a aussi...
La droite qui soutient Martine Aubry, c'est quand même aussi qui aurait imaginé ça seulement 5 ans.
Ils se sont très bien entendus durant le confinement. Ils ont très bien travaillé ensemble avec la droite, justement.
La droite qui soutient la dame des 35 heures, c'est quand même un phénomène étonnant.
Non, mais il y a aussi si vous voulez, il y a, oui, d'accord, mais il y a d'autres villes de gauche, plutôt, qui sont menacées par des candidats de gauche. C'est le cas, par exemple, Philippe Sorel à Montpellier, Laurent Russier à Saint-Denis. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, des maires de droite, Tours, Annecy, Amiens, Nancy, qui sont menacés, justement, de perdre leur mairie, des Républicains, la plupart. Par des écolos qui ont conclu un axe avec le Parti Socialiste. Et c'est en cela, si vous voulez, que cet axe... Moi, je pense quand même, on a tiré une conclusion tout à l'heure, on était d'accord, on était sur la même ligne avec Gérard, en disant il ne faut pas tirer des municipales une projection, une leçon pour les présidentielles, mais il n'empêche qu'un axe vert PS
bien sûr.
Est menaçant même pour les présidentielles.
Ça fait 5 ans, Catherine, 5 ans qu'Europe Écologie Les Verts a indéniablement gagné du terrain.
Oui,
mais aujourd'hui, est-ce qu'un Jadot, parce que c'est lui aujourd'hui...
Dans tous les cas, les candidats aux municipales ont fait un score meilleur que Jadot aux élections européennes. Lui, il a fait 13 et des epsilon, tandis que la moyenne des élections écologistes, enfin, lorsque le leader était écologiste, faisait entre 13 et 20%, ce qui est quand même énorme. Donc, mais il y a un mouvement, c'est vrai qu'il y a...
Oui.
C'est un peu...
Avec un effet en plus Covid-19, là, qui se rajoute, qui s'ajoute.
Il y a un effet Covid-19 parce que les Verts disent que c'est une punition de la Terre, le virus est une punition de la Terre et qu'il faut revenir à la décroissance et changer de mode de vie. Et ça plaît beaucoup à toute une génération de jeunes et dans les villes, le vélo, tout ça, ça correspond à l'ère du temps. Ils sont dans l'ère du temps, enfin, pour eux. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois les municipales passées, est-ce qu'ils vont dans les villes se transformer, prendre des solutions radicales ? Je ne sais rien. En tous les cas,
Il y a un paradoxe, d'autant que les listes de La République En Marche ont fait alliance avec beaucoup de listes de droite.
De droite.
C'est ça qui est étonnant.
Parce qu'il y a un moment, on se raccroche à... Oui, La République En Marche, c'est la débâcle.
Non, mais c'est
qu'après l'élection... C'est pas la débâcle, puisqu'elle n'avait rien.
Elle n'avait pas de
rien. C'est la débâcle au niveau des espérances.
Oui.
Elle avait de grandes espérances et elle rentrera bredouille.
Mais c'est pour ça, d'ailleurs...
C'est quand même anormal, le parti... présidentielle, qui avait donc de grandes espérances, qui rentre à la maison en n'ayant effectivement rien ramassé, c'est quand même quelque chose politique.
Est-ce que du coup, avec
les
cette déroute...
Les fruits ne sont pas la promesse des fleurs.
Mais si on refait une synthèse globale, la déroute assurée a priori dimanche à Paris, la capitale, ce qui est quand même l'emblème a priori. D'ailleurs, Emmanuel Macron a d'emblée, enfin je sais pas, dites-le moi, est-ce qu'il a d'emblée enjambé finalement ces élections, ces municipales ?
Il n'avait pas les bons candidats. Benjamin Griveaux, ça s'est terminé.
C'est calamiteux.
Oui. C'est calamiteux. Et Madame Buzyn, qui a tellement pleuré lorsqu'elle est entrée en campagne, et qui, écoutez, Madame Buzyn avait sûrement beaucoup de qualités, mais il était évident qu'elle n'a pas de leadership. Elle n'a pas une voix
de leader.
Elle
a donné rendez-vous dans 6 ans. Elle dit qu'elle sera là dans 6 ans.
Elle a déjà digéré la défaite.
Exactement.
Quand même,
les Parisiens ont oublié la saleté, Gérard Carrérou.
Oui, la saleté, effectivement. Tout le monde vous dit que Paris est une des villes les plus sales du monde maintenant, c'est vrai.
Elle a fait oublier.
Mais si vous voulez, il y a eu une erreur de casting de la part. Écoutez, il y avait un candidat, vous allez rire, mais il y avait un candidat qui était le candidat miracle qui aurait fait un malheur à Paris. Et qui aurait peut-être fait un excellent... C'est le Premier ministre. Le Premier ministre Philippe aurait gagné Paris. Bon, donc, c'est clair. Alors, vous allez du coup, je dis, qu'est-ce qu'il va faire quand il aura... Est-ce qu'il va gagner, Catherine, à ton avis ? Est-ce qu'il va gagner ?
Avec notamment un candidat PCF en face,
qui
fonctionne bien.
Soutenu par la France Insoumise.
Exactement.
Est-ce que Mélenchon, qui est allé sur place, est un aspirateur à voix ? Ça reste à démontrer, parce que pour lui-même et pour son parti, c'est pas évident. Mais je crois quand même que les Havrais sont fiers d'avoir pour candidat un Premier ministre qui est aussi populaire en France. Moi, ça m'étonnerait qu'il ne la remporte pas. Parce que
et
franchement,
le dernier sondage le donne largement
en tête.
Ouais.
Enfin,
bon, on verra. 47.
Ouais, exactement. Bon, on voit ça dimanche, de toute façon. On se retrouve dans une seconde, les grandes voix dans ce studio, jusqu'à 19h sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, jusqu'à 19h.
On a fait le tour des grandes villes, évidemment, on a zoomé sur ces municipales. Je voudrais qu'on aille aussi sur un autre sujet ce soir, messieurs, dames. Emmanuel Macron, c'est la question, est-il intervenu dans une enquête judiciaire visant son ancien bras droit, la défense d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, pour être exact, qui est soupçonné de conflit d'intérêts. Charles Villeneuve, vous suivez cette affaire de très près. En tout cas, le président de la République a écrit une lettre assurant la probité de son ancien directeur de cabinet à Bercy, hein, aujourd'hui. Et cette lettre a été transmise au parquet, au PNF, au parquet national financier.
Oui, dans laquelle il dit, comme suite à votre demande, cher Alexis, je vous confirme que lors de votre prise de fonction au ministère de l'économie, j'avais été informé de vos liens familiaux avec la société MSC. Vous savez, c'est la deuxième société mondiale de transport maritime, 30 milliards de chiffre d'affaires. Et il a été au conseil d'administration de ces sociétés. Vous m'avez d'ailleurs, Alexis Kohler, évidemment, vous m'avez d'ailleurs expressément demandé de ne vous confier aucun dossier concernant cette société. C'est la raison pour laquelle j'ai désigné M. de Normandie, qui était à l'époque le directeur adjoint du cabinet. Bon, en réalité, cette lettre, évidemment, il l'envoie au parquet financier dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la police, qui rédige un premier rapport accablant et qui modifie ce rapport pour classer sans suite l'affaire.
Ouais, voilà.
Et c'est donc, est-ce que cette lettre qui intervient,
voilà, est-ce qu'il y a pression
qui est dommageable,
ou pas ?
C'est la raison pour laquelle deux juges vont maintenant réexaminer le dossier.
Et il y a soupçon d'intervention. Et il faut quand même dire que Kohler, c'est un des éléments essentiels. Toujours le secrétaire général de l'Élysée, mais celui-là peut-être plus que d'autres, et particulièrement l'homme clé du dispositif Macron. Dispositif Macron pour aujourd'hui et pour éventuellement la prochaine campagne. Donc ça serait très embêtant pour le président de la République si effectivement les deux juges qui ont été désignés...
Si c'était le juge Tournaire, mais apparemment pas.
Et si c'était le juge Tournaire, il aurait du souci à se faire, mais ça sera peut-être quelqu'un de moins...
Alors en tout cas, pour l'instant, l'Élysée a confirmé cette lettre transmise, effectivement, mais réfute toute tentative de pression sans aucun doute. Catherine Ney, j'ai envie de vous demander comment vous pouvez réagir à ça, cet extrait sonore.
Au nom des citoyens de ce monde, nous demandons des choses au gouvernement constamment. Nous voulons des réponses, nous voulons être entendus, nous voulons des assemblées citoyennes.
Le son est presque l'image, mais la réaction en tout cas, parce que ces militants écologistes qui se sont enchaînés au gris du ministère de l'Intérieur, cette image hier impressionnante quand même, ça vous a...
Écoutez, quand même, le ministère de l'Intérieur, on voit bien comme journaliste que quand on y entre, on a l'impression qu'on va être fouillé au corps, on a peur, enfin on a peur quand on entre, enfin vous voyez, Mais d'un autre côté, j'en parlais avec Guillaume Bier, qui est notre journaliste spécialiste. Il me dit, mais dans le fond, c'est très facile, parce que le ministère de l'Intérieur, il y a un Porsche, sur lequel il y a deux guérites. L'une est donnée à un policier, l'autre à un gendarme, pour la parité. Et donc, les gens entrent par les guérites et sont surveillés. Mais il y a des gens qui passent. Or, les militants, ils ne sont pas arrivés en groupe. Ils sont arrivés un par un. Il y en a un ou deux qui ont essayé d'entrer dans les guérites. Et pendant qu'ils étaient occupés, il y en a deux qui sont montés sur la grille, qui ont mis cette fameuse banderole. Moins de LDB et plus de navets. Voilà, vous voyez, c'est des neuneux. C'est des écologistes.
C'est Extinction Rébellion.
Bon, donc, ce qui est ridicule, c'est bon, il y a une fille qui a dit la sécurité du peuple, c'est la santé et l'alimentation. Bon, donc des gens les policiers, n'allez pas leur casser la figure, surtout en ce moment où ils sont accusés. Mais ça montre, qu'il y avait une faille. C'était la première fois qu'on l'exploitait. Ça aurait pu être n'importe qui, beaucoup plus dur. Et donc, je pense que maintenant, le public ne passera plus sur le trottoir. Vous voyez, ça va être gardé beaucoup plus. En tous les cas, ça fait une très mauvaise image pour le pays.
Parce qu'on
se dit vraiment, le ministre de l'Intérieur, en plus, on est à 30 mètres de l'Élysée, vous voyez. Bon, alors c'est vrai qu'entre là, il y a des barrières et qu'on n'entre pas comme ça à l'Élysée. Ouais. Mais ça la fout mal, quoi.
Comme l'affiche mal, comme tu dis, effectivement, la peinture sur Colbert.
Cette tension mémorielle.
Voilà, au moment de cette tension, au moment où le président de la République a dit, dimanche, sur un ton quand même fort, que c'était pas la France, c'était pas le pays où on allait renier notre histoire, ou déboulonner les statues, etc. Bah, paf, maintenant on commence à badigeonner Colbert, et où ça va s'arrêter ça? On peut quand même se demander où est l'autorité là, où est l'autorité?
Mais là par exemple avec la séquence de Beauvau, même si c'est plus anecdotique entre guillemets, c'est l'autorité de Christophe Castaner qui est définitivement mise à sac, c'est un peu la sensation que cela vous fait?
Non, mais
parce que l'image est quand même...
Que ce soit des, comment tu disais, la tendance neuneux des écolos qui prennent d'assaut quand même
les militants écologistes
du ministère de l'Intérieur, qui est le symbole c'est même de l'autorité, si vous voulez, de la sécurité intérieure du pays, à 30 mètres, comme le faisait remarquer Catherine de l'Élysée, où on ne peut
dans
pas passer...
Dans ce moment de tension sociétale.
On ne peut pas passer dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré, à ce moment-là, c'est barré par des voitures de police, etc. Et ça tombe sur qui, une fois de plus d'un ministre, de toute façon, qui est aujourd'hui remis en question par toute sa police.
Non, mais ce qui est terrible, c'est que les gens vont se dire c'est une poignée de zigotos qui humilie la République. Quoi.
Oui,
donc, ça va donner une impression de faiblesse qui est déjà... Et comme qui s'ajoute à la faiblesse et tout ça. Et donc, si on parie sur l'avenir de Castaner, je ne parierai pas sur son avenir à Beauvau.
Moi non plus.
Mais ce remaniement, il vient toujours? Il arrive toujours, selon vous?
À mon avis,
après les municipales, parce que là, ça y est, parlons.
On peut
crûment,
s'attendre plus tard, mercredi.
On y est dimanche. Ah, d'ici mercredi.
Je pense.
Parce
que vous savez, dès mercredi, on commence à élire les maires.
Oui.
Et notamment le maire du Havre.
Oui.
Donc il faudrait peut-être le reconduire ou le retirer du poste de Premier ministre pour qu'il puisse faire son boulot au Havre, ville qu'il adore.
Qu'il adore, il n'a de cesse de le clamer. Un mot peut-être juste sur Édouard Philippe, Catherine Ney, parce que vous le suivez de près. Enfin. Oui. Il y a eu un dîner, le premier en 3 ans, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, il y a quelques jours de cela, dont le point s'est fait l'écho. Est-ce qu'on a su pourquoi premier dîner en 3 ans? Alors évidemment, on connaît les sondages, très flatteurs.
Non, c'est-à-dire en tête à tête,
pardonnez-moi.
Il y en avait eu d'autres.
Mais oui, pardonnez-moi, j'ai pas fait ma phrase.
Absolument.
En tête à tête.
Ribadeau Dumas et Colère.
Là, on est en tête à tête.
Oui, mais c'est qu'ils avaient ce... Il fallait qu'ils se mettent en accord avec leurs arrière-pensées respectives. Voilà.
Ben oui, ils avaient des choses à se dire, hein, on peut l'espérer.
Les sondages flatteurs pour Édouard Philippe.
Non, et puis quoi qu'on dise, c'est un tandem qui fonctionne bien quand même. Je veux dire, dans la Ve République, c'est un des tandems qui fonctionne le mieux. Et le Premier ministre est d'une loyauté totale. Il ne se prépare pas à la présidentielle de 2022. Il dit même que ça ne l'intéresse pas. Il le redit. Je veux dire, il ne peut pas trouver meilleur allié. Puis moi, je vais vous dire, à 500 jours de la présidentielle, vous nommez un nouveau Premier ministre qui va quoi? Il va falloir qu'il apprenne les dossiers, tout ça, perdra. Il va mettre 6 mois.
On verra d'ici mercredi, nous a dit Charles.
Parce
merci
que moi,
beaucoup.
Suis pas
bon. On verra ça, évidemment. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci, à demain.